La femme de 30 ans, chapitre 6 et dernier. Pendant l'un des premiers jours du mois de juin 1842, une dame d'environ 50 ans, mais qui paraissait encore plus vieille que ne le comportait son âge véritable, se promenait au soleil, à l'heure de midi, le long d'une allée, dans le jardin d'un grand hôtel situé rue Plumet, à Paris. Après avoir fait deux ou trois fois le tour du sentier, légèrement sinueux, où elle restait pour ne pas perdre de vue les fenêtres d'un appartement, qui semblait attirer toute son attention, elle vint s'asseoir sur un de ces fauteuils à demi champêtre qui se fabriquent avec de jeunes branches d'arbres garnies de leur écorce. De la place où se trouvait ce siège, élégant, la dame pouvait embrasser, par une des grilles d'enceinte, les boulevards intérieurs, au milieu desquels est posé l'admirable dôme des Invalides, qui élève sa coupole d'or parmi les têtes d'un millier d'ormes. Admirable paysage, et l'aspect moins grandiose de son jardin terminé par la façade grise d'un des plus beaux hôtels du faubourg Saint-Germain. Là, tout était silencieux, les jardins voisins, les boulevards, les Invalides. Car dans ce noble quartier, le jour ne commence guère qu'à midi. À moins de quelque caprice, à moins qu'une jeune dame ne veuille monter à cheval, ou qu'un vieux diplomate n'ait un protocole à refaire, à cette heure, valets et maîtres, tout dort, ou tout se réveille. La vieille dame si matinale était la marquise d'Aiglemont, mère de Madame de Saint-Hérène, à qui ce bel hôtel appartenait. La marquise s'en était privée pour sa fille, à qui elle avait donné toute sa fortune, en ne se réservant qu'une pension viagère. La comtesse Moïna de Saint-Hérène était le dernier enfant de Madame d'Aiglemont. Pour lui faire épouser l'héritier d'une des plus illustres maisons de France, la marquise avait tout sacrifié. Rien n'était plus naturel. Elle avait successivement perdu deux fils. L'un, Gustave, marquis d'Aiglemont, était mort du choléra. L'autre, Abel, avait succombé dans l'affaire de la Macta. Gustave laissa des enfants et une veuve, mais l'affection assez tiède que Madame d'Aiglemont avait portée à ses deux fils s'était encore affaiblie en passant à ses petits-enfants. Elle se comportait poliment avec Madame d'Aiglemont la jeune, mais elle s'en tenait aux sentiments superficiels que le bon goût et les convenances nous prescrivent de témoigner à nos proches. La fortune de ses enfants morts ayant été parfaitement réglée, elle avait réservé pour sa chère Moïna ses économies et ses biens propres. Moïna, belle et ravissante depuis son enfance, avait toujours été pour Madame d'Aiglemont l'objet d'une de ces prédilections innées ou involontaires chez les mères de famille. Fatale sympathie qui semble inexplicable, ou que les observateurs savent trop bien expliquer. La charmante figure de Moïna, le son de voix de cette fille chérie, ses manières, sa démarche, sa physionomie, ses gestes, tout en elle réveillait chez la marquise les émotions les plus profondes qui puissent animer, troubler ou charmer le cœur d'une mère. Le principe de sa vie présente, de sa vie du lendemain, de sa vie passée, était dans le cœur de cette jeune femme, où elle avait jeté tous ses trésors. Moïna avait heureusement survécu à 4 enfants, ses aînés. Madame d'Aiglemont avait en effet perdu, de la manière la plus malheureuse, disaient les gens du monde, une fille charmante dont la destinée était presque inconnue, et un petit garçon, enlevé à 5 ans par une horrible catastrophe. La marquise vit sans doute un présage du ciel dans le respect que le sort semblait avoir pour la fille de son cœur, et n'accordait que de faibles souvenirs à ses enfants déjà tombés selon les caprices de la mort, et qui restaient au fond de son âme, comme ces tombeaux élevés dans un champ de bataille, mais que les fleurs des champs ont presque fait disparaître. Le monde aurait pu demander à la marquise un compte sévère de cette insouciance et de cette prédilection. Mais le monde de Paris est entraîné par un tel torrent d'événements, de modes, d'idées nouvelles, que toute la vie de Madame d'Aiglemont devait y être en quelque sorte oubliée. Personne ne songeait à lui faire un crime d'une froideur, d'un oubli qui n'intéressait personne, tandis que sa vive tendresse pour Moïna intéressait beaucoup de gens et avait toute la sainteté d'un préjugé. D'ailleurs, la marquise allait peu dans le monde, et pour la plupart des familles qui la connaissaient, elle paraissait bonne, douce, pieuse, indulgente. Or, ne faut-il pas avoir un intérêt bien vif pour aller au-delà de ces apparences dont se contente la société? Puis, que ne pardonne-t-on pas aux vieillards lorsqu'ils s'effacent comme des ombres et ne veulent plus être qu'un souvenir? Enfin, Madame d'Aiglemont était un modèle complaisamment cité par les enfants à leur père, par les gendres à leur belle-mère. Elle avait, avant le temps, donné ses biens à Moïna, contente du bonheur de la jeune comtesse, et ne vivant que par elle et pour elle. Si des vieillards prudents, des oncles chagrins, blâmaient cette conduite en disant « Madame d'Aiglemont se repentira peut-être quelque jour de s'être dessaisie de sa fortune en faveur de sa fille, car si elle connaît bien le cœur de Madame de Saint-Irène, peut-elle être aussi sûre de la moralité de son gendre ?» C'était, contre ses prophètes, un tollé général, et de toutes parts pleuvaient des éloges pour Moïna. « Il faut rendre cette justice à Madame de Saint-Irène, » disait une jeune femme, « que sa mère n'a rien trouvé de changé autour d'elle. Madame d'Aiglemont est admirablement bien logée, elle a une voiture à ses ordres et peut aller partout dans le monde, comme auparavant. »« Excepté aux Italiens, » répondait tout bas un vieux parasite, un de ces gens qui se croient en droit d'accabler leurs amis d'épigrammes sous prétexte de faire preuve d'indépendance. La douairière n'aime guère que la musique, en fait de choses étrangères à son enfant gâté. Elle a été si bonne musicienne dans son temps. Mais comme la loge de la comtesse est toujours envahie par de jeunes papillons, et qu'elle y gênerait cette petite personne, de qui l'on parle déjà comme d'une grande coquette, la pauvre mère ne va jamais aux Italiens. Madame de Saint-Irène, disait une fille à marier, a pour sa mère des soirées délicieuses, un salon où va tout Paris. Un salon où personne ne fait attention à la marquise, répondait le parasite. Le fait est que Madame d'Aiglemont n'est jamais seule, disait un fat en appuyant le parti des jeunes dames. Le matin, répondait le vieil observateur à voix basse, le matin, la chère Moïna dort. À 4 heures, la chère Moïna est au bois. Le soir, la chère Moïna va au bal ou au bouffe. Mais il est vrai que Madame d'Aiglemont a la ressource de voir sa chère fille pendant qu'elle s'habille, ou durant le dîner, lorsque la chère Moïna dîne par hasard avec sa chère mère. « Il n'y a pas encore 8 jours, monsieur, » dit le parasite en prenant par le bras un timide précepteur, nouveau venu dans la maison où il se trouvait, « que je vis cette pauvre mère, triste et seule au coin de son feu. « Qu'avez-vous ? » lui demandai-je. La marquise me regarda en souriant, mais elle avait certes pleuré. « Je pensais, » me disait-elle, qu'il est bien singulier de me trouver seule après avoir eu 5 enfants. Mais cela est dans notre destinée. Et puis, je suis heureuse quand je sais que Moïna s'amuse. Elle pouvait se confier à moi, qui jadis ai connu son mari. C'était un pauvre homme, et il a été bien heureux de l'avoir pour femme. Il lui devait certes sa pairie et sa charge à la cour de Charles X. Mais il se glisse tant d'erreurs dans les conversations du monde. Il s'y fait avec légèreté des mots si profonds que l'historien des mœurs est obligé de sagement peser les assertions insouciamment émises par tant d'insouciants. Enfin, peut-être ne doit-on jamais prononcer qui a tort ou raison de l'enfant ou de la mère. Entre ces deux cœurs, il n'y a qu'un seul juge possible. Ce juge est Dieu. Dieu qui, souvent, assied sa vengeance au sein des familles et se sert éternellement des enfants contre les mères, des pères contre les fils, des peuples contre les rois, des princes contre les nations, de tout contre tout, remplaçant dans le monde moral les sentiments par les sentiments, comme les jeunes feuilles poussent les vieilles au printemps, agissant en vue d'un ordre immuable, d'un but à lui seul connu. Sans doute, chaque chose va dans son sein, ou mieux encore, elle y retourne. Ces religieuses pensées, si naturelles au cœur des vieillards, flottaient éparses dans l'âme de Madame d'Aiglemont. Elles y étaient à demi lumineuses, tantôt abîmées, tantôt déployées complètement, comme des fleurs tourmentées à la surface des eaux pendant une tempête. Elle s'était assise, lassée, affaiblie par une longue méditation, par une de ces rêveries au milieu desquelles toute la vie se dresse, se déroule aux yeux de ceux qui pressentent la mort. Cette femme, vieille avant le temps, eût été pour quelque poète passant sur le boulevard un tableau curieux. À la voir assise à l'ombre grêle d'un acacia, l'ombre d'un acacia à midi, tout le monde eût su lire une des mille choses écrites sur ce visage pâle et froid, même au milieu des chauds rayons du soleil. Sa figure, pleine d'expression, représentait quelque chose de plus grave encore que ne l'est une vie à son déclin, ou de plus profond qu'une âme affaissée par l'expérience. Elle était un de ces types qui, entre mille physionomies dédaignées parce qu'elles sont sans caractère, vous arrêtent un moment, vous font penser, comme, entre les mille tableaux d'un musée, vous êtes fortement impressionné, soit par la tête sublime où Murillo peignit la douleur maternelle, soit par le visage de Béatrix Cinci où le guide sut peindre la plus touchante innocence au fond du plus épouvantable crime, soit par la sombre face de Philippe II où Velasquez a pour toujours imprimé la majestueuse terreur que doit inspirer la royauté. Et certaines figures humaines sont de despotiques images qui vous parlent, vous interrogent, qui répondent à vos pensées secrètes et font même des poèmes entiers. Le visage glacé de Madame d'Aiglemont était une de ces poésies terribles, une de ces faces répandues par milliers dans la divine comédie de Dante Alighieri. Pendant la rapide saison où la femme reste en fleurs, les caractères de sa beauté servent admirablement bien la dissimulation à laquelle sa faiblesse naturelle et nos lois sociales la condamnent. Sous le riche coloris de son visage frais, sous le feu de ses yeux, sous le réseau gracieux de ses traits si fins, de tant de lignes multipliées, courbes ou droites, mais pures et parfaitement arrêtées, toutes ces émotions peuvent demeurer secrètes. La rougeur, alors, ne révèle rien en colorant encore des couleurs déjà si vives. Tous les foyers intérieurs se mêlent alors si bien à la lumière de ses yeux flamboyants de vie que la flamme passagère d'une souffrance n'y apparaît que comme une grâce de plus. Aussi, rien n'est-il si discret qu'un jeune visage, parce que rien n'est plus immobile. La figure d'une jeune femme a le calme, le poli, la fraîcheur de la surface d'un lac. La physionomie des femmes ne commence qu'à 30 ans. Jusque à cet âge, le peintre ne trouve dans leur visage que du rose et du blanc, des sourires et des expressions qui répètent une même pensée, pensée de jeunesse et d'amour, pensée uniforme et sans profondeur. mais dans la vieillesse, tout chez la femme a parlé. Les passions se sont incrustées sur son visage. Elle a été amante, épouse, mère. Les expressions les plus violentes de la joie et de la douleur ont fini par grimer, torturer ses traits, par s'y empreindre en mille rides qui toutes ont un langage. Et une tête de femme devient alors sublime d'horreur, belle de mélancolie ou magnifique de calme. S'il est permis de poursuivre cette étrange métaphore, le lac desséché laisse voir alors les traces de tous les torrents qui l'ont produit. Une tête de vieille femme n'appartient plus alors ni au monde, qui, frivole, est effrayé d'y apercevoir la destruction de toutes les idées d'élégance auxquelles il est habitué, ni aux artistes vulgaires qui n'y découvrent rien, mais aux vrais poètes, à ceux qui ont le sentiment d'un beau, indépendant de toutes les conventions sur lesquelles reposent tant de préjugés en fait d'art et de beauté. Quoique Madame d'Aiglemont portât sur sa tête une capote à la mode, il était facile de voir que sa chevelure, jadis noire, avait été blanchie par de cruelles émotions. Mais la manière dont elle la séparait en deux bandeaux trahissait son bon goût, révélait les gracieuses habitudes de la femme élégante et dessinait parfaitement son front flétri, ridé, dans la forme duquel se retrouvaient quelques traces de son ancien éclat. La coupe de sa figure, la régularité de ses traits, donnait une idée, faible à la vérité, de la beauté dont elle avait dû être orgueilleuse. Mais ces indices accusaient encore mieux les douleurs, qui avaient été assez aiguës pour creuser ce visage, pour en dessécher les tempes, en rentrer les joues, en meurtrir les paupières et les dégarnir de cils, cette grâce du regard. Tout était silencieux en cette femme. Sa démarche et ses mouvements avaient cette lenteur grave et recueillie qui imprime le respect. Sa modestie, changée en timidité, semblait être le résultat de l'habitude qu'elle avait prise depuis quelques années de s'effacer devant sa fille. Puis sa parole était rare, douce, comme celle de toutes les personnes forcées de réfléchir, de se concentrer, de vivre en elles-mêmes. Cette attitude et cette contenance inspiraient un sentiment indéfinissable qui n'était ni la crainte ni la compassion, mais dans lequel se fondaient mystérieusement toutes les idées que réveillent ces diverses affections. Enfin, la nature de ses rides, la manière dont son visage était plissé, la pâleur de son regard endolori, tout témoignait éloquemment de ses larmes, qui, dévorées par le cœur, ne tombent jamais à terre. Les malheureux accoutumés à contempler le ciel, pour en appeler à lui des mots que leur vie eût facilement reconnus dans les yeux de cette mère, les cruelles habitudes d'une prière faite à chaque instant du jour et les légers vestiges de ces meurtrissures secrètes qui finissent par détruire les fleurs de l'âme et jusqu'au sentiment de la maternité. Les peintres ont des couleurs pour ces portraits, mais les idées et les paroles sont impuissantes pour les traduire fidèlement. Ils s'y rencontrent, dans les tons du teint, dans l'air de la figure, des phénomènes inexplicables que l'âme saisit par la vue, mais le récit des événements auxquels sont dus de si terribles bouleversements de physionomie est la seule ressource qui reste au poète pour les faire comprendre. Cette figure annonçait un orage calme et froid, un secret combat entre l'héroïsme de la douleur maternelle et l'infirmité de nos sentiments, qui sont finis comme nous-mêmes et où rien ne se trouve d'infini. Ces souffrances, sans cesse refoulées, avaient produit à la longue je ne sais quoi de morbide en cette femme. Sans doute, quelques émotions trop violentes avaient physiquement altéré ce cœur maternel, et quelque maladie, un anévrisme peut-être, menaçait lentement cette femme à son insu. Les peines vraies sont en apparence si tranquilles dans le lit profond qu'elles se sont fait, où elles semblent dormir, mais où elles continuent à corroder l'âme comme cet épouvantable acide qui perce le cristal. En ce moment, deux larmes sillonnèrent les joues de la marquise et elle se leva, comme si quelque réflexion plus poignante que toutes les autres l'eût vivement blessée. Elle avait sans doute jugé l'avenir de Moïna. Or, en prévoyant les douleurs qui attendaient sa fille, tous les malheurs de sa propre vie lui étaient retombés sur le cœur.